C'est avec une grande fierté que je vous présente le commanditaire de mon podcast, Bijouterie Brillance, Shine Like a Star. Parce qu'en plus d'encourager ce balado, Bijouterie Brillance offre une belle visibilité à une de mes passions, la fabrication de bijoux, plus précisément des bracelets faits à la main avec de jolies pierres, perles, breloques, sélectionnées pour leur beauté. Lorsque vous visitez bijouteriebrillance.com, rendez-vous dans la section Bracelets du Québec spécialement réservée à mes créations. Chaque bracelet est unique et est fabriqué avec beaucoup d'amour. En plus de vous offrir un environnement de magasinage sécuritaire et un vaste choix de bijoux en importation privée, la Bijouterie Brillance aimerait remercier les auditeurs de mon balado en vous offrant congé de taxes et en vous offrant aussi la livraison gratuite au Canada. Et pour vous choyer encore plus, inscrivez le nom de mon podcast « Cindy l'a dit » en un seul mot dans la case « Code promo » pour recevoir un rabais de 15% supplémentaire. À tous ceux qui choisiront les jolis bracelets de ma collection, je vous dis du fond du cœur un grand merci et n'hésitez pas à m'envoyer une photo de vous avec mes créations. Vous êtes déjà plusieurs à le faire et mes bracelets sont encore plus beaux sur vous. Merci de choisir bijouteriebrillance.com. Je suis Cindy Snamon. Plusieurs me connaissent parce que je l'ai divertie depuis plus d'un quart de siècle dans les médias. Pour les autres, je me présente. J'ai débuté ma vie d'adulte avec 80$ en poche à faire toutes sortes de choses farfelues pour gagner ma vie. Autant les jobs les plus moches que les plus glamour, jusqu'à monter une chaîne de magasins au succès. Vous n'avez pas idée des cordes que j'ai à mon arc et je suis un caméléon de l'adaptation en toutes circonstances. C'est ma plus grande force. Je ne me considère pas comme un exemple à suivre, mais j'ai déjoué toutes les statistiques et obstacles qui se sont présentés à moi, ce qui montre bien qu'on peut arriver à tout avec un peu d'audace, de travail et un brin de folie. C'est en racontant les histoires folles de ma vie qu'on m'a fortement suggéré de les publier parce que c'est trop drôle, incroyable et farfelu. La majorité des histoires ne sont pas racontables dans les médias traditionnels. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast sous le thème « Des confidences ». Je me suis jamais prise au sérieux et je n'ai pas peur du ridicule, mais je n'aime pas la méchanceté. Avec les années, j'ai compris que les pires jugements venaient de personnes qui avaient beaucoup plus à cacher que moi. Soyez donc amusés, divertis, surpris ou même choqués. C'est la vie que j'ai eue, la seule que j'ai, il m'est impossible à recommencer pour vous faire plaisir. Donc, vaut mieux en rire. Et entre vous et moi, je recommencerai à 95% tout ce qui m'est arrivé tellement que c'est fou. Alors, bonne écoute et amusez-vous bien.
Avertissement. L'émission qui suit contiendra des propos surprenants, tous basés sur le vécu de l'artiste. Il sera question de sujets osés, témoignages audacieux mais réels, ainsi que toutes sortes d'anecdotes folles pouvant choquer la sensibilité de certaines personnes. Si vous êtes toujours à l'écoute, c'est que vous donnez votre consentement à être surpris, amusé ou peut-être même charmé par les confidences de cette personnalité. Si vous êtes prêts, débutons maintenant.
Allô, j'espère que tu vas bien. Je suis contente que tu sois à l'écoute pour notre première discussion ensemble. Comme je vais aborder des choses assez intimes avec toi, ne fais pas un saut si je ne te parle pas au vous, parce que... Comme je dis toujours, quand on est rendu à parler de ces choses-là, on est un peu plus familier. Puis comme je dis toujours, dis-moi tu parce que le vous, ça me tue. J'ai pensé mille fois avant de décider si j'allais te parler durant cet appel de choses que j'ai vécues, parce que j'en ai jamais parlé dans les médias, puis ça se prêtait pas non plus au style de médiatisation que j'ai eu avec les années. C'est quand on parle de plaisir, il y a des choses qu'on ne peut pas nécessairement aborder. Ce n'est pas nécessairement la place pour le faire non plus. Mais là, j'ai choisi de le faire avec toi parce que je pense que c'est le temps de le faire et parce qu'il y a différentes raisons à ça. Ça va te permettre de mieux comprendre pourquoi, au cours de ma vie, j'ai fait certaines décisions, j'ai pris certaines décisions, j'ai pris certains chemins qu'en temps normal, les gens ne prennent pas. Puis c'est difficile à expliquer si tu ne comprends pas d'où je viens. Puis peut-être si tu es capable de te mettre dans ma peau, tu vas comprendre un peu mieux ce qui a mené mon cheminement. Ce que je m'apprête à discuter avec toi, c'est très, très intime. Et puis, je compte sur toi, puis sur ta compréhension, sur ton ouverture d'esprit. Garde en tête que je ne te parle pas de ça, ni pour faire pitié, ni pour flasher, ni pour essayer de t'émouvoir. Écoute, c'est la vie que j'ai eue. Puis honnêtement, si je ne passe pas par l'étape de te le dire présentement, tu vas avoir de la misère à suivre mon comportement dans toutes mes péripéties folles que j'ai faites par la suite. Donc oui, c'est le bout de plate à passer au début, mais après ça, le reste, c'est franchement amusant. Bon, ben si t'es prêt, ben je me lance. Écoute, il n'y a pas d'autre façon de faire que de plonger dans la piscine si on veut apprendre à nager. Alors, écoute, moi, si ma vie était une game de poker, mettons que je suis arrivée sur cette terre avec la pire main possible, un 2 puis un 7 dépareillé. On comprendrait qu'avec des cartes de même, ça débute bien mal. Je suis née de deux parents qui auraient jamais dû avoir d'enfants. Ça a l'air d'un gros jugement de ce que je dis là, mais c'est clair pour moi qu'il y a des personnes qui devraient jamais, mais jamais avoir d'enfants. Je vais te faire un résumé très simple de la situation. Moi, j'ai passé mon enfance complète avec de la maladie mentale parentale, de l'irresponsabilité parentale, ensuite maltraitance physique, psychologique. Puis j'ai grandi là-dedans. Il a fallu que j'évolue dans ce milieu-là. La DPJ est venue souvent chez nous. En fait, il était vraiment abonné. J'ai jamais trouvé qu'il avait fait quelque chose vraiment concret pour me protéger. J'ai aussi passé certaines parties de mon enfance gardées soit par une madame, soit par une grand-mère, soit par une marraine. Mais tu sais, je revenais toujours dans ce milieu-là. Les gens ne me gardaient pas. Tu sais, je te répète ça, là, mais je te dis pas ça, question de faire pitié. Puis je sais que toi aussi, tu as dû vivre des choses pas évidentes dans ta vie. Mais là, je te raconte un bout de la mienne, puis j'essaie de te mettre ça soft, mais c'était vraiment plus dur que tu penses. Ça a été tellement dur, puis ça a tellement été comme ça toute mon enfance, que quand j'ai débuté l'adolescence, 13-14 ans, ben j'ai décidé que c'en était assez, puis je me suis tuée. Quand je dis « je me suis tuée », c'est pas parce que je voulais faire une tentative de suicide puis attirer l'attention, là. C'était pas une négociation de quelque chose, là. Moi, dans ma tête, à moi, à 14 ans, la mort était là, puis je m'en allais mourir, puis je voulais plus vivre parce qu'il fallait que ça cesse, ces mauvais traitements-là. Il fallait absolument que ça cesse d'une façon ou d'une autre. Puis personne ne me sortait de cette misère-là. Je voyais pas d'issue, puis c'est la seule issue possible, c'était de mourir. Tu sais, quand t'es petit, puis tu te couches le soir, puis tu te dis « Ah, ça serait donc bien le fun de ne pas se réveiller. » Ah, faudrait pas repasser une autre journée de même, ça n'a pas de sens. Mais c'est là que tu sais que c'est vrai que tu veux mourir. Fait que je t'évite les détails. Ce qui s'est produit, c'est qu'ils m'ont réanimé à l'hôpital. Et je peux te garantir une chose, autant qu'eux autres avaient l'air contents que je sois revenue, juste pour vous dire, autant moi j'étais en tabarnak, mais pour la même raison. J'étais tellement décidée dans mon plan de ne plus être là du tout que si j'aurais pu m'achever à l'hôpital, je l'aurais fait, je te le dis. Là. Je suis restée un bon moment à l'hôpital. Écoute, j'avais beaucoup de séquelles de tout ça. Naturellement, ben, j'étais sous sécurité. J'ai demandé à ce que ma famille ne vienne pas me voir. Naturellement, ben, j'ai eu accès à de l'aide psychologique. Et en sortant de là, ben, j'ai eu droit à un placement dans une famille d'accueil. Je suis chanceuse, je suis tombée dans une bonne famille qui était correcte. Écoute, j'ai rien à dire. Des gens bien gentils, tu sais. Puis ça faisait très différent pour moi, cette dynamique-là. J'étais vraiment pas habituée à ça. Malgré que j'étais rendue en sécurité puis que je pouvais évoluer plus calmement, tout ce début de vie-là m'a laissé comme avec un espèce d'arrière-goût de « tu sais, t'es né pour un petit pain, puis tu iras pas loin dans la vie, puis tu sais, résigne-toi donc, même la mort veut pas de toi, tu sais, bon, tu sais, vis, là, mais tu sais,
ça va être ça qui est ça. Il n'y a rien d'extraordinaire dans le fait de vivre. Tu sais, quand on vit des mauvais traitements comme ça, ou qu'on doit évoluer sur un stress constant, on vieillit plus vite que d'autres enfants. Puis, tu sais, ça se peut que tu pognes un degré de maturité beaucoup plus rapidement. Puis, c'est là que la famille d'accueil où j'étais s'en sont rendus compte. Tu sais, on dit que, c'est malgré tout ça, rendu à mes 15 ans, 16 ans. Tu sais, 15 ans, là, ils ont commencé à voir là, que je pouvais faire mon petit bonhomme de chemin par moi-même. Ce que très peu de gens savent au Québec, c'est que tu peux, à 16 ans, avoir un appartement supervisé. Tu es mineur, mais tu peux vivre une vie d'adulte pareil. Fait que moi, à 16 ans, j'avais un logement. Je m'étais payé une voiture à 600 $. Puis là, vous allez dire, comment je me suis payé ça? Mais moi, c'est pas compliqué. J'ai connu le travail enfant aussi. Fait que je travaille depuis que j'ai l'âge de pouvoir travailler. Puis j'ai eu mon premier vrai chèque de paye à 14 ans. J'ai fait toutes sortes de jobs dans la vie. Puis travailler, ça faisait partie de mon ADN aussi. Donc, à 16 ans, écoute, je suis toujours scolarisée, je suis en appartement, j'ai un petit chum, j'ai une voiture, je vais à l'école, je cumule les emplois que le monde qualifie maintenant comme emplois de marde. Ça, je trouve ça vraiment plate parce que c'est très dégradant pour les gens comme moi qui ont fait des métiers, tu sais, qu'on qualifie de sous-métiers. Mais moi, j'ai toujours dit... Il n'y a pas de métier stupide. Il y a des gens qui ne comprennent juste pas qu'il faut que ça se fasse. Fait que, naturellement, ben écoute, je travaille dans des casse-croûtes, j'ai lavé des toilettes, des planchers, j'ai été couturière, j'ai beaucoup de cordes à mon arc. Puis, tu sais, j'ai fait plein de jobs que personne ne voulait faire, mais ça me permettait de gagner ma vie. Là, tu vas te dire, comment qu'on fait pour aller à l'école? Puis travailler en même temps, autant, puis avoir un chum. Mais écoute, c'est, je te dirais, un bout à l'école, majoritairement à job après l'école, avant l'école aussi. Puis je te dirais, des fois même en deux cours, hein, tu sais, ça peut se faire. Puis je te dirais, écoute, t'as d'affaires à apprendre vite, puis t'as d'affaires à assimiler rapidement la matière à l'école, parce que t'as pas beaucoup de temps pour les devoirs, les leçons, puis ce genre de niaisage-là que j'appelais. Parce que dans le fond, tu sais, on se comptera pas de mentir. Je vais te le dire tout de suite, j'étais pas destinée à faire des hautes études non plus. Pas parce que j'étais pas intelligente, mais c'est parce que j'avais pas de... Je savais que j'aurais jamais le budget pour me rendre à l'université. Ça a fait en sorte que j'ai fait des choix d'études, pas pour des cours que j'aurais voulu faire, mais plus selon le budget que j'avais. Là, tu vas me dire, ben oui, mais les prêts et bourses, ça existe. Oui, mais moi, j'étais pas favorisée dans ce genre d'affaires-là. Je vais te dire, ben franchement, moi, il fallait que je travaille pour aller à l'école. Puis, j'avais pas droit à certaines choses que d'autres avaient droit. Puis, c'est comme ça. Puis, quand tu sors de la DPJ, tu sors d'un placement comme ça, bien souvent, tu es laissé un peu à toi-même, puis tu n'as pas accès à des bourses d'études tant que ça. En tout cas, moi, dans mon temps, c'était pas ça. Puis, c'est comme ça. Il faut que tu aies vraiment le vouloir d'aller à l'école pour continuer. Puis moi, je l'avais. Si j'aurais pu, j'aurais resté à l'école le plus longtemps possible, mais la vie en a décidé autrement. Bon, mais comme je te disais tantôt, j'étais en couple avec un petit chum. On est resté ensemble et on faisait une vie d'adulte, mais en étant mineur. En tout cas, moi j'étais mineur. Puis c'est ça. Là, on était un vrai couple. On habitait ensemble, puis on travaillait. Puis tu sais, la seule différence, c'est que j'allais à l'école, puis je poursuivais mes études. Il est arrivé un moment où ce que j'ai commencé à constater. Que ce gars-là, ben, commençait à regarder d'autres filles. Moi, écoute, mon estime de moi était à terre, là. Mon estime de moi était nulle. J'étais complexée. J'avais pas de budget pour m'arranger. Je te dirais, je vivais assez pauvrement, tu sais. Puis, tu sais, quand t'es pas avantagé au niveau budget, là, on se comptera pas de mentir, là. Ça prend de l'argent pour faire une belle fille. Tu sais, tu peux être cute pareil sans ça, mais je te dirais que ça aide quand t'as le budget pour, mettons, là. Fait que moi, j'étais habillée avec du vieux linge, je chantais à graisse à patates frites. Pas parce que je me lavais pas, mais c'est parce que j'étais constamment en train de travailler. Quand c'était pas ça, je chantais le détergent, je lavais des toilettes. Tu sais, c'était de même, là. Tu sais, je sais que j'étais pas sexy, puis je sais que c'était facile de détourner le regard, puis d'en regarder d'autres qui étaient mieux. Mais moi, ce qui m'a fait mal, c'est qu'il regardait une fille qui allait à l'école avec moi, mais qu'elle était franchement avantagée. Là, quand c'est la fille d'un dentiste, puis qu'elle vient à l'école avec un pick-up de l'année, puis que moi, j'ai un vieux char, il part une fois sur trois. Moi, mes affaires, ça, je suis pas de calibre, t'sais, avec ça. Puis, t'sais, encore une fois, la vie me montrait que... T'sais, fallait pas que je voie trop haut non plus, puis que j'allais toujours être surpassée par tout le monde. Écoute, je sais pas s'il s'est passé quelque chose entre lui et cette fille-là, mais en tout cas, visiblement, mon seuil d'acceptation, vu tout ce que j'ai vécu dans la vie, mon seuil d'acceptation à certaines affaires est peut-être plus élevé que la moyenne. Là. J'ai comme passé cette étape-là en me disant, ben, coudonc, c'est ça qui est ça. Mais là, il est arrivé une autre affaire, c'est que là, il est tombé en mononucléose, puis on sait que ce genre d'affaire-là, ça peut durer un long moment. Donc, il travaillait plus. Je me suis ramassée seule à avoir la charge, en plus de mon école, le travail, puis je faisais vraiment pas des gros salaires. Là, on parle de salaire minimum et moins. Là. Puis, si vous vous demandez, est-ce que ça se peut être payé moins que le salaire minimum, je peux vous garantir que oui. Fait que moi, je le sais, je l'ai vécu. Fait qu'il y a certains jobs que tu acceptes parce que c'est ça. Puis l'important, c'est qu'il faut que l'argent rentre. Puis j'avais pas d'autres moyens que ça. Fait que c'est moi qui me suis ramassée à avoir la charge de tout au niveau monétaire. À un moment donné, ben, il s'est mis à sortir le soir. Au début, je pensais que c'était avec des amis. Puis à un moment donné, ben, j'ai su. Qui allait aux danseuses du secteur. Là. Fait que, écoute, naturellement, ben, ils dépensaient notre argent à ce place-là. Imaginez-vous comment ça a dû me faire mal quand j'ai appris ça. J'en revenais juste pas. Moi, je le pensais malade, mais dans le fond, je te dirais que juste le fait même qu'ils servaient dans notre argent commun pour aller là, ça m'a totalement écœurée. Je me suis même rendue sur place à un moment où ce qui était là. Écoute, j'avais vu son véhicule qui était là. Je vous rappelle encore que j'étais mineure. Puis, naturellement, le doorman ne m'a pas laissé rentrer. Mais comme il me connaissait, ben, il m'a gardé dans le portique qu'on appelle, là, dans l'accueil. Puis, il est allé me chercher une liqueur. Là, puis, il m'a dit de me calmer les nerfs. Puis, j'ai dit, je veux voir ce qui se passe là. Parce que j'ai dit, je viens d'en avoir le cœur net. Il dit, je te laisserai pas rentrer. Mais il dit, je vais te laisser regarder parce que je pense que c'est la moindre des choses. Fait que j'ai bu ma liqueur là, j'ai regardé loin ce qui se passait, puis c'était sans équivoque. Écoute, les danses à cette époque-là, c'était pas des danses dans les isoloirs, là. C'était des danses aux tables, puis on voyait directement ce qui se passait. Écoute, moi, d'où j'étais, j'ai tout vu, là. Puis même s'il n'y avait pas de contact ou quoi que ce soit, là, on savait bien que, tu sais, moi, je n'étais pas de calibre à rivaliser avec ça. Puis honnêtement, là, regarde, on voyait bien que je savais juste à payer les affaires à la maison puis que son désir était rendu ailleurs. Puis que, tu sais, je vivais encore une fois un rejet. Tu sais, c'était terrible pour moi, là. J'étais dévastée de ça. J'ai eu une bonne discussion avec le lendemain. Naturellement, le ton a monté pas mal de mon bord. Puis j'ai dit... je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais... Tu sais, on dirait que je suis rentrée comme... À cause que je me suis déjà tuée mentalement, on dirait que je suis rentrée dans une zone, à partir de ce moment-là, à 14 ans, je suis rentrée dans une zone de... j'ai plus rien à perdre, tu sais. Puis quand ma zone de « j'ai plus rien à perdre » embarque, ben à ce moment-là, on dirait que j'ai pas de limite dans mes choix de décision. Fait que j'y ai dit, dans un moment de zone, j'ai plus rien à perdre, s'il faut que je sois danseuse pour que tu me remarques, je vais l'être. Mais naturellement, ben, il m'a ri d'en face, puis il m'a dit que j'aurais jamais rien de ce qu'il faut pour faire ça. Ça m'a carrément... Je t'en parle, là, puis j'ai le frisson juste à te le dire. Ça m'a carrément... Non seulement j'étais fâchée, mais j'étais tellement résignée, j'étais tellement... Tu sais, c'est comme si tu étais déjà à terre puis tu te faisais piler dessus encore plus. Il n'y a pas de mots pour te dire ce que j'ai filé à ce moment-là. Ça m'a tourné dans la tête une couple de jours. ce que j'y avais dit. Puis, tu sais, je me disais, ça n'a même pas de sens d'avoir pensé ça. Puis, tu sais, finalement, je regardais ma vie et je me disais, tu sais, j'ai vraiment plus rien à perdre. Je suis ici, ça sert à rien, j'ai pas d'avenir. J'ai un cours à l'école qui m'apportera probablement à rien. Je suis pas capable de le payer en plus. J'ai plus d'argent. J'ai plus rien. J'ai plus de vie de couple. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, je tiens à te rappeler, c'est pas des chiffres en l'air, là, que le tiers des enfants qui ont passé par la DPJ, qui quittent soit une famille d'accueil ou un centre jeunesse, ils vont vivre soit une période d'itinérance ou d'extrême pauvreté. Chaque année, là, il y a plus de 2000 enfants qui vivent cette étape-là de transition au Québec. C'est au moins 600 jeunes de peut-être moins 18 ans qui se retrouvent directement dans la rue. Moi, ça ne me tentait pas de vivre de même. Puis j'ai toujours vécu en travaillant et en me débrouillant. Mais là, j'étais face à un choix de vie que j'avais. Je ne pouvais plus rester où j'étais. J'avais plus d'argent. J'avais plus rien, puis j'avais pas d'avenir. Alors, j'ai attendu un bon matin qui tourne le coin de la rue. Puis, je l'ai vu partir. Puis, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai foulé mon char de mes petites choses que je possédais. Puis, c'était du linge. Puis, je suis allée vider le compte de banque. J'avais 80$ en poche. Puis, j'ai conduit droit devant vers ma nouvelle vie. Puis, je me suis jamais retournée en arrière. Puis, tu sais, quand tu essaies de me demander d'où je viens, tu sais, tu essaies de m'identifier à un patelin ou quoi que ce soit, tu sais, moi, ça me fait juste la peine parce que moi, c'est des choses que ça ne me tente pas de parler. Puis, tu sais, j'en discute avec toi là juste pour que tu comprennes pourquoi j'ai fait certains choix dans la vie. Puis, tu sais, ça va te permettre aussi d'éviter que tu me mettes des étiquettes comme quoi, ben, je suis carrément folle ou, tu sais, je fais des choses farfelues, oui. Mais, tu sais, la vie m'a apporté vers certains choix que j'ai pris, mais c'est dû aussi à ce que j'ai vécu. Donc, ça va te permettre de mieux comprendre ça. Donc, voilà, tu sais, ça t'explique comment se fait ça qu'à un moment donné, je suis partie. Pourquoi aussi j'hésite à parler de ces temps-là de ma vie, de ma jeunesse. Parce que, dans le fond, moi, je me suis tuée à 14 ans. Puis j'ai commencé à revivre quand je suis partie de là. Et je sais que je suis pas toute seule à avoir vécu une situation semblable. Tu sais, il y a le chanteur d'Almigra qui a eu une enfance difficile, qui est impliqué aussi auprès des jeunes. Il y a Stéphane Fallu, l'humoriste, qui a créé la maison Stéphane Fallu pour aider pour les jeunes aussi en difficulté. Il y a la journaliste Nancy Audet qui a été une inspiration pour moi. Puis c'est un peu grâce à elle que je m'ouvre à toi comme ça aujourd'hui. Elle, journaliste, animatrice, conférencière, est aussi dévouée aux enfants de la DPJ. Puis si on pense que les jeunes qui sortent de là n'ont pas tant d'avenir, bien, Martin McNichols, bien, lui, c'en est un autre exemple de jeune qui est sorti de la DPJ, puis qui est devenu un homme d'affaires prospère avec Guru Solutions. Juste à googler, puis tu vas en avoir le cœur net à ce sujet-là, puis tu vas apprendre beaucoup de choses sur ces gens-là. Mais bref, c'est juste te dire que je suis pas tout seul, puis tu sais, il y en a d'autres qui ont vécu ça, puis il y en a qui ont vécu peut-être pire que moi aussi. Là. C'est pas un concours, là, présentement, là, de qui fait plus pitié, mais ça te permet de mieux comprendre vraiment ce qui s'est passé. Donc, c'est là que l'aventure commence. Je suis dans ma petite voiture, je roule droit devant moi, j'ai aucune idée où est-ce que je m'en vais. Tout ce que je possède est dedans, j'ai 80$ en poche, et puis je roule des heures. Puis un moment donné, j'arrive à un club de danseuses. Oui, je suis arrivée là, et puis ça s'est passé simple de même. J'aimerais ça que pouvoir te conter une histoire très élaborée, mais c'était quand même, à l'époque, c'était pas bien compliqué, mais que je suis rentrée. Dorman était là, j'ai dit carrément « Cherchez-vous du monde pour travailler? » Il m'a dit « À quel niveau? » J'ai dit « Danseuse. » Il dit « Tu veux commencer quand? » J'ai dit « Maintenant. » Puis il m'a emmené voir le boss de la place, puis il m'a présenté les lieux. puis c'est de même que j'ai commencé, tout simplement. Je suis quand même surprise parce que, tu sais, je m'attendais pas de me faire accepter, puis je me suis fait prendre un peu à mon propre jeu. Tu sais, moi, j'avais l'impression qu'elle allait me dire non à l'entrée, puis que ça allait boucler la boucle, puis j'allais repartir vers un avenir incertain, là, comme d'habitude. Mais là, tu sais, on me dit oui, puis, tu sais, je suis acceptée dans la place. Fait que, tu sais, je me suis fait prendre là, puis il fallait que je continue là-dedans. Mais je me suis dit, tant qu'à être là, plus rien à perdre, je vais m'essayer, puis, hey, tu sais-tu quoi? Je pense que je vais te conter à mon prochain appel l'aventure de mon premier stage, mon premier spectacle nu. Puis ça vaut vraiment la peine que tu sois là parce que tu vas faire un saut. C'est peut-être pas comme tu t'imagines, mais c'est vraiment là que le fun commence. Puis c'est vraiment là que tu vas comprendre le début de plein d'aventures totalement burlesques et incroyables. Donc, je te dis à bientôt à mon prochain appel.
Please leave a message after the tone.
J'ai pensé à te laisser un message parce que je pense que c'est important qu'on s'en parle. Si jamais tu vis des moments difficiles présentement, si jamais tu es découragé, tu sais, il faut que tu saches que tu n'es pas obligé de passer par la case game over comme moi, là. Tu sais, tu as le droit de changer de vie, puis tu as le droit de te donner la permission de redébuter tout en neuf. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire que ça se fait pas. Il y a des gens aussi qui vont dire que tu peux pas laisser les gens de ta famille. Ces gens-là comprennent pas que des fois, c'est une question de survie, de tasser des gens de notre vie, de tasser des choses de notre vie, puis de recommencer en neuf. Alors, oui, tu as le droit, puis donne-toi cette permission-là. Si jamais tu es découragé ou tu es au désespoir, je vais mettre dans les informations de mon podcast des choses qui pourraient t'aider aussi. Donc, peut-être aller faire un tour puis aller voir. Écoute, moi, je te remercie d'écouter ce moment-là avec moi. Puis, je te le dis, là, décourage-toi pas parce qu'on ne sait jamais c'est quoi qui s'en vient dans l'avenir. Je vais penser à toi.
Voilà qui conclut la programmation d'aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Nous espérons que vous en avez profité pour vous détendre tout en vous amusant. Vous avez aimé cette émission? N'hésitez pas à partager sur vos médias sociaux ou même donner des étoiles et des bons commentaires. C'est la manière la plus simple, gratuite et efficace de montrer votre support et votre appréciation. Pour les intéressés, les informations pertinentes au contenu diffusé sont affichées dans le descriptif de l'émission. Nous vous invitons à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode qui sera sans aucun doute très divertissant. À très bientôt.